préliminaire, comment se fait-il que le seul t-shirt de Cthulhu soit dans la salle?
Ouais, on se casse.
Tu voudrais que je dise pourquoi le seul t-shirt Cthulhu est là?
Je peux l'enlever, mais je crois que le demande est pas prise.
C'est parce qu'il a pas voulu prendre ma place.
Certaines créatures ne peuvent être décrites et donc elles sont là, mais.
Il a pas voulu prendre ma place, c'est pour ça qu'il est dans la salle le t-shirt Cthulhu.
Tu es tout seul.
Au-dessus de ce qui apparemment était des hiéroglyphes, se trouvait une figure, placée là dans une intention d'illustration évidente, même si l'exécution impressionniste n'autorisait pas que l'on se fît une idée très nette de sa nature. On aurait dit une sorte de monstre, ou de symbole représentant un monstre, d'une forme telle que seul un esprit morbide avait pu le concevoir. Si je dis que mon imagination, quelque peu extravagante, se laissa aller à y voir tout à la fois les formes d'une pieuvre, d'un dragon, d'une caricature humaine, ce ne sera pas trahir l'esprit de la chose. Une tête molle, tentaculée, surmontait un corps grotesque et écailleux, équipé d'ailes rudimentaires. Mais c'était la ligne générale de l'ensemble qui provoquait le choc le plus violent et le rendait plus effrayant. Derrière la figure, à l'arrière-plan, on devinait la vague suggestion d'une architecture cyclopéenne.
Voilà, le décor est posé. On va donc discuter autour de Lovecraft et notamment de ses évocations de créatures, parce que c'était le thème fil rouge de cette convention.
Yeah. Non, j'organise, t'inquiète pas.
Avec plusieurs intervenants, donc, le premier lecteur Christophe Thiel, qui est co-directeur des éditions Malpertuis, essayiste, anthologiste, traducteur à ses heures aussi. Quelques mots sur Malpertuis peut-être.
Malpertuis, petite maison d'édition indépendante spécialisée dans la littérature fantastique. Voilà, une anthologie par an, annuelle, la dernière en date Malpertuis 8, la prochaine sera donc logiquement Malpertuis 9. Et puis, nous avons projeté un certain nombre de recueils de nouvelles par des jeunes auteurs talentueux ou talentueuses.
Ensuite, Laurent Pougeois, qui est auteur, s'il en faut.
Je vous présente.
Vas-y, présente-toi, Laurent.
Moi je suis auteur, je suis grenoblois aussi, et ce qui en soi n'a pas d'importance. Mon rapport avec Lovecraft, c'est un rapport de lecteur d'abord, et ensuite un rapport d'auteur aussi, puisque j'ai commis une œuvre jeunesse dans l'univers de Lovecraft, et plus récemment, j'ai participé à l'ouvrage sur Kadat et au recueil de nouvelles autour de la Clé d'Argent qu'a publié Mnemos cette année.
Jérôme Vincent. Est-ce que j'ai besoin de présenter Jérôme Vincent? Oui, il va se présenter lui-même, il fait ça très bien.
Je suis le grand capital sur cette table. Je suis éditeur aux éditions ActuSF. Voilà.
Et j'aime bien Lovecraft.
Et nos deux grands lecteurs attitrés.
Bonjour, Jérôme Briot, je suis professeur d'histoire-géographie. Je participe aussi à une association culturelle autour de laquelle s'appelle l'Atelier de Huit. Et en fait, je suis tombé dans Lovecraft étant petit à travers le jeu de rôle, qui m'a ensuite amené à la lecture de Lovecraft et à la découverte de cela. Et puis, l'an dernier, avec mon camarade, nous sommes partis sur l'idée d'organiser une lecture de Lovecraft, parce qu'on avait envie.
Enfin, des gens sérieux sur ce sujet.
Bonjour, Wayne Moussa. Donc, pareil, j'ai fait un petit peu de jeu de rôle sur le monde de Lovecraft étant petit, enfin un peu petit. Et quand Jérôme m'a proposé de travailler sur Lovecraft, moi je connaissais, mais je n'avais pas une affinité particulière. Mais j'ai dit, banco, on y allait. Donc, pour moi, je ne sais pas si c'est l'intérêt, mais la difficulté en tout cas, c'est que l'écriture de Lovecraft est très écrite, justement, alors que moi je viens du conte, je viens de l'oralité. Donc mettre ses mots dans la bouche, c'est un peu la difficulté et en même temps la richesse. J'espère que ça va très bien se passer.
Et ben. On va voir ça tout de suite.
Ouais.
On va faire la première lecture. Tiens, garde le micro.
Donc, je vous propose L'étrange maison haute dans la brume. Chaque matin, près des falaises de Kingsport, une étrange brume monte de la mer, blanche et juveteuse. Elle s'élève des profondeurs vers ses frères les nuages, toute pleine de rêves de pâturages humides et de cavernes de Léviathan. Et lorsque, plus tard, les calmes pluies d'été tombent sur les toits qui abritent les poètes, ces nuages éparpillent des bribes de rêves pour que les hommes ne vivent pas sans avoir vent des mystères anciens ou des merveilles que durant la nuit les planètes racontent aux autres planètes. Quand les contes s'épaississent et se font nombreux dans les grottes des tritons, et que les conques dans les cités d'algues marines font résonner de vieux airs enseignés par les anciens, alors des brumes impatientes se rassemblent dans les cieux, chargées de connaissances et de secrets. Et ceux qui, des rochers, regardent vers l'océan, ne voient qu'une blancheur surnaturelle, comme si le bord de la falaise était le bord du monde, et comme si les cloches solennelles des balises tintaient dans un éther de féerie. Au nord de Kingsport, la ville archaïque, les hauts rochers s'élèvent curieusement en palier, jusqu'à ce que l'ultime fête du nord paraisse suspendue dans le ciel, comme un nuage gris de glace. Il est seul, sommet isolé, saillant dans l'espace illimité. À cet endroit, la côte tourne brusquement. Là où le grand Miskatonic se jette dans la mer après avoir traversé les plaines, au-delà d'Arkham, apportant avec lui les légendes et les curieux souvenirs des bois et des collines de la Nouvelle-Angleterre. Les gens de Kingsport lèvent les yeux vers la falaise, comme d'autres vers l'étoile polaire. Ils règlent la durée des tours de garde de nuit, suivant la façon dont elles cachent ou laissent voir les grandes ours, Cassiopée et le dragon. Pour ces gens, la falaise fait partie du firmament, et en vérité, elle ne disparaît à leurs yeux que lorsque la brume cache les étoiles ou le soleil. Ils ont de l'affection pour certaines falaises, par exemple celle au contour grotesque, qu'ils appellent le Père Neptune, ou celle dont ils désignent la succession de piliers par la chaussée. Mais celle qui est si proche du ciel, ils en ont peur. Les marins portugais, arrivant de voyage, se signent dès qu'ils l'aperçoivent, et les vieux Yankees pensent que l'escalader, si toutefois c'était possible, serait pire que la mort. Il y a cependant une vieille maison au sommet de cette falaise, et le soir on peut voir briller de la lumière derrière ses fenêtres à petits carreaux. Cette maison a toujours été là. Les gens disent que celui qui y demeure converse avec les brumes matinales qui s'élèvent des profondeurs. Il aurait découvert sur l'océan des choses curieuses à ce moment où le bord de la falaise se confond avec le bord du monde tout entier. Quand les cloches solennelles des balises se mettent à teinter dans les terres blancs de féerie, cela ils en parlent par oui dire, car ce rocher interdit n'a jamais été exploré, et les gens du pays évitent soigneusement de diriger leurs télescopes vers lui. Les équipages qui mouillent pour l'été l'ont scruté avec des jumelles, mais ils n'ont jamais rien vu de plus que le vieux toit gris pointu, couvert de bardeaux dont les auvents descendent presque jusqu'aux fondations, et la faible lueur jaune filtrant des petites fenêtres dans le soir. Ceux qui viennent l'été ne croient pas qu'il vit dans cette maison depuis des centaines d'années. Mais s'ils sont bien incapables de donner la preuve de leur opinion hérétique aux habitants de Kingsport. Même le terrible vieillard qui parle à des pendules de plomb logées dans des bouteilles, qui achète ses provisions avec des pièces d'or espagnoles séculaires, mais qui conserve des idoles de pierre dans la cour de sa maison hantée d'Illuvienne de Water Street, ne peut qu'affirmer que les choses étaient déjà ainsi quand son grand-père n'était qu'un petit garçon et qu'elles devaient l'être des siècles auparavant, quand Belcher, Shirley et Bonner étaient les gouverneurs de Sa Majesté pour la province du Massachusetts. Puis un été, un philosophe vint à Kingsport. Il s'appelait Thomas Olney. Il enseignait les choses ennuyeuses dans une université de la baie de Narragansett. Il arriva avec une épouse corpulente et des enfants turbulents. Ses yeux et son âme étaient fatigués d'avoir toujours eu les mêmes pensées bien disciplinées. Il contempla les brumes sur le diadème du Père Neptune et essaya de pénétrer dans les univers de grands mystères, le long des gradins gigantesques de la chaussée. Matin après matin, il restait allongé sur les falaises à regarder par-dessus le bord du monde, l'éther cryptique et lointain, et à écouter les cloches spectrales et les cris sauvages des mouettes. Dès que la brume se levait et que la mer devenait morne sous la fumée des bateaux à vapeur,
Il soupirait, il descendait en ville, où les bêtas se promenaient dans les petites ruelles étroites et anciennes qui montent et descendent de la colline, et étudiait les pignons branlants et les portes aux curieuses colonnes qui avaient abrité tant de générations de marins vigoureux. Et il parlait même avec le terrible vieillard qui n'aimait pas les étrangers, et qui l'invita dans sa maison incroyablement archaïque, où les plafonds bas et les lambris rongés de verre étaient témoins pendant les heures de la nuit de soliloques inquiétants. Bien entendu, il était inévitable qu'Olmy remarqua la maison grise et mystérieuse, perdue sur ce sinistre rocher qui ne faisait qu'un avec les brumes et le firmament. Le mystère qui entourait l'étrange habitation avait toujours été chuchoté dans les ruelles sinueuses de Kingsport. Le terrible vieillard racontait d'une voix asthmatique l'histoire qu'il tenait de son père, qui avait aperçu une nuit un éclair immense surgir de cette maison au toit pointu et s'élever vers les nuages du ciel. Grand-mère Anne, dans la petite demeure dans Sheep Street, est toute couverte de mousse et de lierre, racontait que sa grand-mère avait entendu dire que les formes étranges de brume s'envolaient et entraient directement par la porte étroite et unique de cet endroit inaccessible. Car la porte se trouve au bord de la falaise, côté océan, et n'est visible que des bateaux. À la fin, curieux d'apprendre des choses nouvelles et aucunement retenu par la peur des habitants de Kingsport ou par la paresse habituelle des estivants, Olmy prit une décision terrible. Malgré son éducation conservatrice, ou à cause d'elle, car les existences routinières nourrissent des désirs silencieux pour l'inconnu, il fit le serment d'escalader cette falaise interdite et de visiter l'antique maison grise qui se dressait dans le ciel. À juste titre, la partie la plus rationnelle de sa personnalité lui suggérait que les habitants du lieu devaient y accéder depuis l'intérieur du pays. Il devait, sans doute, emprunter une voie longeant la crête la plus proche de l'estuaire de Miskatonic. Probablement faisaient-ils leurs achats à Arkham, sachant combien les habitants de Kingsport aimaient peu leur maison, ou peut-être étaient-ils simplement incapables de descendre de la falaise du côté de la cité. Olmy marcha le long des falaises plus basses jusqu'à l'endroit où le grand rocher s'élevait insolemment pour se marier avec les choses célestes. Il s'assura qu'aucune force humaine ne pouvait escalader ou descendre côté sud par cette pente menaçante. À l'est et au nord, le roc, également impraticable, s'élevait à des milliers de pieds, perpendiculairement à l'eau. Il ne restait que le flanc ouest, tourné vers l'intérieur, en direction d'Arkham. Tôt un matin d'août, Olmy se mit en route pour rechercher un chemin. Pour rechercher un chemin menant vers le pinacle inaccessible. Il marcha en direction du nord-ouest, le long de routes agréables. Il dépassa la mare de Cooper et la vieille poudrerie de briques, jusqu'à ce que l'endroit où les pâturages s'élèvent vers la crête dominant le Miskatonic, d'où l'on a une vue admirable sur les clochers blancs d'Arkham. Là, il trouva une route ombragée qui menait vers la sept cité, mais point d'autres pistes en direction de la mer, ainsi qu'il l'avait souhaité. Des bois et des champs dévalaient jusqu'à l'embouchure du fleuve. Il n'y avait aucun signe de présence humaine, pas même un mur de pierre ou une vache solitaire, seulement l'herbe haute, les arbres géants et les enchevêtrements de bronze que les premiers Indiens avaient dû voir. Tandis qu'il grimpait lentement à l'est, de plus en plus haut, au-dessus de l'estuaire qui se trouvait à sa gauche pour se rapprocher de la mer, il découvrit que le chemin devenait de moins en moins facile d'accès. Et il finit par se demander comment les habitants de cet endroit détesté pouvaient bien s'y prendre pour atteindre le monde extérieur et se rendre au marché d'Arkham. Puis les arbres se raréfièrent, et, loin au-dessous de lui, sur sa droite, il vit les collines, les vieux toits et les flèches de Kingsport. Même Saint-Rockville était minuscule, vu de cette hauteur, et il pouvait à peine discerner le vieux cimetière près de l'hôpital de la congrégation, sous lequel, selon la rumeur, se dissimulent des caves et des cryptes terrifiantes. Devant lui s'étendait une herbe épaisse, des buissons de ronces et de mûres, et au-delà, le roc nu de la falaise et le toit pointu de la redoutable maison grise. À présent, la crête se rétrécissait, et Olmy se sentit mal à l'aise à cause de la solitude sous ce ciel hostile près du précipice effrayant au-dessus de Kingsport, au sud et de la paroi verticale.
verticale qui faisait presque un mail de haut à l'embouchure de la rivière, au nord. Tout à coup, il découvrit un trou béant devant lui, de 10 pieds de profondeur. Il y descendit, en se suspendant par une main, jusqu'à un plan incliné, et ensuite rampa dangereusement le long d'un défilé naturel sur la paroi opposée. Ainsi, c'était là la manière dont les habitants de cette maison fantastique voyageaient entre ciel et terre. Quand il émergea du gouffre, une brume matinale se formait, mais il vit distinctement la maison haute et impie devant lui, les murs aussi gris que le rocher, et son sommet qui s'élevait audacieusement au milieu du blanc laiteux des vapeurs en marine. Et il remarqua qu'il n'y avait pas de porte du côté des terres, mais seulement quelques petites fenêtres à croisillons avec des vitres opaques en œil de bœuf, plombées à la mode du XVIIe siècle. Tout autour de lui, ce n'était qu'un chaos de nuages. Il n'apercevait rien d'autre que la blancheur et l'espace sans limite. Il était seul dans le ciel avec cette curieuse et très troublante maison. Après avoir longé l'enceinte jusqu'à la façade, il vit que le mur ne faisait qu'un avec la paroi épaisse de la falaise, si bien que l'étroite pente ne pouvait être atteinte que par les ailes. Il en ressentit une terreur que l'altitude seule ne pouvait expliquer. N'était-il pas très étrange que des barbeaux aussi rongés par les vers aient survécu au temps, et que les briques aussi coulantes forment une cheminée qui tienne encore debout? Comme la brume s'épaississait, Olney fit le tour de la maison, jusqu'aux fenêtres des côtés nord, ouest et sud, qu'il trouva toutes verrouillées. Il en fut vaguement content, car plus il voyait cette maison, moins il désirait y pénétrer. C'est alors qu'un son le fit sursauter. Il entendit un grincement de serrure, un long grincement, comme si une lourde porte était lentement et prudemment ouverte, et un claquement de loquet suivit. Cela se passait du côté de l'océan, là où l'étroite porte s'ouvrait sur l'espace vide à des milliers de pieds au-dessus des vagues, dans le ciel brumeux. Puis il y eut un piétinement lourd et décidé dans la maison, et Olney entendit les fenêtres s'ouvrir, d'abord sur le côté nord, en face de lui, puis à l'ouest, de l'autre côté. Quand un tâtonnement se rapprocha du châssis le plus proche de lui, il se faufila vers le côté ouest et s'aplatit contre le mur à côté des fenêtres à présent ouvertes. Il était évident que le propriétaire était rentré, mais il était évident aussi qu'il n'était pas arrivé par la terre, ni par quelques ballons ou aéronefs qu'on pût imaginer. Des pas résonnèrent de nouveau. Olney contourna l'habitation par le nord, mais avant qu'il eût pu trouver un abri, une voix appela doucement, et il sut qu'il allait rencontrer son hôte. Penché à la fenêtre ouest, il y avait un grand visage, à la barbe noire, dont les yeux phosphorescents portaient l'empreinte de spectacle inouï. Mais la voix était douce, curieusement désuète. Si bien qu'Olney ne frissonna pas quand une main brune se tendit vers lui pour l'aider à pénétrer dans cette étrange pièce basse, aux boiseries de chêne noir et aux meubles de style Tudor. L'homme était vêtu de vêtements très anciens. Il était comme auréolé par la science des mers et par les rêves des hauts galions. Olney ne se souvint ni de toutes les merveilles qu'il lui raconta, ni même qui il était, mais il affirma que l'homme était bienveillant, plein de la magie des songes insondables, et de l'espace. La petite pièce semblait verte, elle paraissait éclairée par une faible lueur aquatique. Et Olney vit que les fenêtres qui donnaient à l'est n'étaient pas ouvertes mais fermées, pour la protéger de la brume, car des vitres épaisses et ternes comme le fond des vieilles bouteilles. L'homme barbu avait l'air jeune, mais son regard semblait provenir du fin fond des temps. D'après les légendes qu'il racontait sur d'extraordinaires choses anciennes, on pouvait deviner que les gens du village avaient raison de dire qu'il avait été en communication avec les brumes de la mer et les nuages du ciel depuis la naissance du premier village capable de contempler de la plaine sa retraite solitaire. La journée finissait, et Olney écoutait encore les histoires des temps anciens et des lieux éloignés. Il apprit comment les rois de l'Atlantide avaient combattu les êtres gluants et impies qui étaient sortis en rampant des crevasses du fond de l'océan, et comment le temple à colonne couvert d'algues de Poséidon peut encore être aperçu à minuit par des bateaux en détresse qui savent, en le voyant, qu'ils sont perdus. L'époque des tritons fut évoquée, mais l'hôte devint hésitant lorsqu'il parla des premiers âges précédant la naissance des dieux, ou même des anciens dieux, quand les autres dieux venaient danser au sommet de Hatekla, dans le désert de pierre, près d'Ulta, de l'autre côté de la rivière Skye. C'est à ce moment qu'on entendit frapper à la porte, à cette ancienne porte de chêne cloutée, au-delà de laquelle il n'y avait que l'abîme de nuages blancs. Olny sursauta de peur, mais l'homme à la barbe lui fit signe de rester calme. Il alla sur la pointe des pieds jusqu'à la porte pour regarder à travers le Judas. Ce qu'il y vit lui déplut, car il pressa son doigt sur ses lèvres et revint sur la pointe des pieds fermer toutes les fenêtres avant de retourner s'asseoir sur l'antique siège près de son invité. Olny aperçut alors une bizarre silhouette noire s'attarder à la vitre translucide de chacune des petites fenêtres, et il fut content que son hôte n'eût pas répondu au coup frappé à la porte, car il y a trop de choses étranges et imprévisibles dans le grand infini, et celui qui est à la recherche des rêves doit éviter d'éveiller ou de rencontrer ce qu'il ne faut pas. Puis les ombres commencèrent à se rassembler. D'abord des petites ombres furtives qui se cachaient sous la table, puis d'autres plus audacieuses dans les sombres coins enrouissés. L'homme à la barbe fit alors des gestes de prière énigmatique et alluma de grandes bougies dans des chandeliers de cuivre, curieusement ouvragés. Il lançait de fréquents coups d'œil vers la porte comme s'il y était quelqu'un. Son attente ne fut pas vaine, puisque l'on entendit bientôt frapper à la porte d'une façon singulière, selon un code sans doute secret et très ancien. Cette fois, il ne vérifia pas même par le Judas, mais poussa la grande barre de chêne, fit tourner la serrure, et déverrouilla la lourde porte, l'ouvrant toute grande aux étoiles et à la brume. À cet instant, un flot d'harmonie obscure pénétra dans la pièce, puis, venu des profondeurs de l'océan, tous les rêves et les souvenirs de puissants disparus de la terre, et les flammes dorées jouèrent sur les chevelures d'algues, si bien qu'Olny fut ébloui et leur rendit hommage. Neptune était là, avec son trident, et les tritons joueurs, et les néréides fantastiques. Sur le dos des dauphins se balançait un vaste coquillage, à l'intérieur duquel il y avait la forme grise et terrible du primitif Nodens, le maître du grand gouffre. Les conques et les tritons firent entendre de curieux bruits, et les néréides émirent d'étranges sons en frappant sur les coquilles de monstres inconnus qui se dissimulent dans les noires cavernes marines. Le vénérable Nodens, alors, étendit sa main flétrie et aida Olny et son hôte à pénétrer dans le vaste coquillage. Les conques et les gongs firent entendre une clameur sauvage et effrayante. Le fabuleux équipage s'élança dans les terres sans limite, tandis que le bruit de ses cris se perdait dans les échos du tonnerre.
Bravo.
Voilà. Alors là, on a déjà beaucoup, beaucoup de choses dans cette nouvelle.
Oui, il faut peut-être préciser, là, elle n'est pas intégrale.
Oui, elle n'est pas intégrale.
Pour des raisons de timing, j'ai dû les compter un peu.
Ok. Donc, on a beaucoup de choses. Dans l'œuvre de Lovecraft, on trouve un certain nombre de figures récurrentes. On va peut-être en parler d'une ou deux, Christophe.
À tout seigneur, toute horreur, on va quand même commencer par citer la figure de Cthulhu, que je me suis amusé à évoquer en ouverture, et qui n'est pas évoquée dans cette nouvelle, mais qu'on devine qu'il n'est pas très très loin, sous la surface des mers. Voilà, Cthulhu, il y aurait énormément de choses à dire dessus. C'est finalement la figure la plus frappante dans l'œuvre de Lovecraft, bien qu'elle ne soit pas mentionnée tellement souvent. Hein, on la trouve très en détail dans l'appel de Cthulhu, et puis il y a des mentions dans, je crois, deux autres nouvelles. Alors après, d'autres auteurs se sont beaucoup amusés avec, mais finalement, Lovecraft l'a laissé un petit peu rôder sous la surface, je dirais. Et alors après, on peut s'amuser à faire un rapprochement entre les formes céphalopodesques de Cthulhu et puis l'horreur bien connue de Lovecraft pour les fruits de mer et ce genre de choses. Je laisserai ça à des psychologues plus avisés. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a une espèce de patchwork composé de formes diverses avec des ailes de dragon, un corps mi-caoutchouteux, mi-écailleux, des tentacules Et tout ça à une échelle colossale, avec une espèce de matière gélatineuse qui n'est pas vraiment de notre monde, qui se reforme quand elle est détruite. Enfin bon, quelque chose de... Vraiment une espèce de quintessence de monstre, c'est-à-dire quelque chose qui est totalement étranger à notre réalité.
Alors Lovecraft utilise énormément de détails anatomiques pour ces diverses divinités qu'on va retrouver. Est-ce que tu sais d'où ça lui vient cette... Il y a beaucoup de détails presque scientifiques, en fait,
scientifique.
À certains moments, ça arrive, presque que, Jules Verne.
Oui, par exemple, il y a dans Les Montagnes Hallucinées, il y a une description de créatures qui d'ailleurs est faite dans la nouvelle sur le mode du rapport scientifique. Fossiles monstrueux en forme de tonneau, de nature totalement inconnue, probablement végétale. Tissu évidemment conservé par les sels minéraux, dur comme du cuir. Marque de cassure, etc. Rappelle un tonneau avec cinq arêtes en saillie, comme des douves. Séparation latérale, comme des tiges assez fines à l'équateur, au milieu de ces saillies. Excroissance bizarre dans les sillons entre les arêtes, etc. Donc on a une description qui est très scientifique, très détaillée, qui en plus est reprise un petit peu plus loin de façon encore plus détaillée, et dont on a pu déterminer qu'elle provenait en fait de lectures scientifiques de Lovecraft. Hein, c'est assez inspiré de créatures microscopiques, de radiolaires, dont il a fait des petits dessins en crayon, et qu'il a ensuite agrandi monstrueusement en se demandant, eh bien voilà, pour avoir ces créatures qui ont constitué une civilisation extraordinaire aujourd'hui recouverte par les glaces de l'Antarctique, mais qui est composée de maisons, de palais, de choses incroyables, eh bien comment je pourrais créer des êtres qui soient le plus différents possible de ce que nous connaissons, qui soient totalement non humains et pourtant qui aient quelques caractéristiques qui les rapprochent de nous, comme le fait d'avoir des membres préhenseurs pour pouvoir évidemment construire des grandes cités, manipuler des choses, faire de la sculpture. Voilà, il a trouvé ça, donc en l'occurrence, dans des lectures scientifiques autour de la microbiologie. Alors après, voilà, on a vu que Cthulhu, il est construit d'une manière un peu plus, je dirais, classique, comme les chimères de la mythologie, en prenant des morceaux de différentes créatures existantes. Et puis bah, aussi, tout simplement, il y a le rôle du rêve. Hein. On sait que c'était quelqu'un qui utilisait beaucoup les rêves pour ses créations. Et puis, dans les rêves, on voit parfois des choses assez monstrueuses. Et c'est aussi quelque chose qu'il a pu utiliser.
Il y a aussi une chose récurrente, c'est le côté caché de ces différentes évocations. Elles sont soit au fond de l'eau, soit dans un espace qu'on ne peut pas atteindre, soit sous les glaces, soit au sommet de hautes montagnes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps. D'où est-ce que ça peut venir, ça ?
Bah, je vois d'abord une raison pratique, qui est que si le monstre habite une petite maison en centre-ville avec pignon sur rue, bon, ça peut être intéressant, hein, mais ça, on arrive dans tout à fait autre chose. Il y a une excitation. Lovecraft était aussi quelqu'un qui adorait dans sa jeunesse les récits d'exploration. D'ailleurs, sans faire de pub, il y a un des volumes paru sous la houlette de David Camus chez Mnemos qui s'appelle « Les montagnes hallucinées et autres récits d'exploration ». Et voilà, l'anecdote que j'aime rappeler, c'est que quand il était jeune, il a eu une très grave dépression. Et il raconte de façon peut-être un petit peu romancée qu'il avait toujours une fiole de poison sur lui et qu'il était prêt à l'absorber à chaque instant si la vie lui paraissait trop insupportable. Et qu'est-ce qui a fait que cette vie ne lui paraissait pas insupportable ? Eh bien, il raconte, avec peut-être un peu d'exagération, on ne sait pas, il raconte plus tard, que c'était l'époque où il y avait encore des grandes taches blanches sur la carte du monde, en particulier au cœur de l'Afrique, et puis également dans les espaces polaires, que la course au pôle était en pleine action à l'époque, avec les rivalités entre un certain nombre d'explorateurs, et que finalement, c'est cette curiosité qui l'a maintenu en vie, avec cette envie de voir les endroits inconnus dévoilés. Donc je crois que toute sa vie, il a gardé une espèce de passion, de fascination, de gourmandise pour ces endroits mystérieux, impossibles à atteindre, les sommets de l'Himalaya, les fins fonds de la forêt africaine, évidemment les sommets de l'Antarctique, hein, auxquels on faisait allusion dans les montagnes hallucinées, et puis les grandes profondeurs marines, hein, on a aussi les explorations des grands fonds marins qui sont importantes. Voilà, le monstre, finalement, c'est un petit peu son lieu naturel, d'être comme ça dans des endroits inaccessibles, et puis ça facilite l'aspect qui est important chez Lovecraft, qui est la révélation. Alors, en allant le découvrir là-bas, on se rend compte que finalement, tout ça était vrai. Tout ce que les pages du Necronomicon nous racontent sur la réalité de notre Terre et la fausseté de nos croyances rassurantes, eh bien, c'est concrétisé par la rencontre avec ce monstre.
Et après, on trouve également un grand nombre d'espèces donc, qui créent de toutes pièces. Alors, ça aussi, c'est quelque chose de très anatomique, mais en même temps, il décrit un peu leur façon de vivre, leurs coutumes, donc il apporte ça de toute pièce.
Oui, il y a toujours cet aspect scientifique, à la fois scientifique et même un peu sociologique, dans la description des monstres. Par exemple, dans l'abîme du temps, il décrit non seulement le physique très particulier de ces espèces de bestioles coniques qui se déplacent en contractant la base de leur corps et qui ont des grands bras multiples pour saisir un peu toutes sortes d'objets. Mais il décrit aussi le fonctionnement de leur société. Il décrit leur culture. C'est également ce qu'il fait dans les montagnes hallucinées. Et puis, c'est aussi un petit peu ce qu'il fait, mais avec une teinte d'horreur qui vient opacifier un peu les choses, dans le cauchemar d'Innsmouth, où là, on est plus dans la répulsion, c'est-à-dire les profonds. Toute cette race de créatures amphibiennes qui sont dans le cauchemar d'Innsmouth sont vraiment décrits comme des êtres répugnants et maléfiques, ce qui empêche de s'intéresser de trop près à leur culture, etc. Alors que dans l'abîme du temps et dans les montagnes hallucinées, il y a cette part de sympathie qui va au-delà de la pure répulsion physique devant ces créatures étonnantes et qui est une sorte de fascination sympathique devant une civilisation aussi élaborée, aussi approfondie, avec une culture aussi raffinée. Et ça, on retrouve des traits psychologiques de Lovecraft qui, toute sa vie, a été un grand amoureux de la civilisation, en particulier de l'Empire romain, avec ce mélange de force brutale et puis de raffinement culturel extrême.
Et enfin, on ne va pas faire trop un bestiaire, mais il y a aussi toute la dimension d'hybridation avec l'humain, donc là, qui suscite carrément la répulsion chez lui et puis pulsion relativement nauséabonde si on creuse un peu trop, mais c'est quelque chose aussi.
Alors là, le rapport entre le monstre et l'humain, il y a quelque chose de très profond, sans jeu de mots, chez Lovecraft dans cette histoire d'hybridation. Le thème du racisme de Lovecraft est assez difficile à éviter, et tout ce qu'on peut dire pour le mitiger est que c'est quelque chose qui était extrêmement répandu dans la société où il vivait à son époque, et que, à la limite, on peut dire qu'il n'est peut-être même pas celui qui l'a mis en avant le plus violemment, le plus fortement. Il y a eu bien pire. Il y a chez Lovecraft un côté naïf. Je vais faire une petite parenthèse sur le racisme, sur l'affaire de Scottsboro, dans laquelle des jeunes noirs, en 1931, ont été accusés d'un crime dont il s'est avéré qu'il avait été totalement mis sur pied, totalement inventé, et qu'ils étaient tout à fait innocents. Lovecraft, dans sa correspondance, exprime que, eh bien, dans un procès équitable par des juges américains bien formés et dotés d'une éthique, il n'y a aucun doute que si ces jeunes sont déclarés coupables, c'est qu'ils le sont. Donc voilà ce que j'appellerais l'aspect naïveté que d'autres n'avaient pas, d'autres exerçaient un racisme plus direct, en disant que de toute façon, des Noirs ne méritaient pas mieux. Voilà, donc le racisme en particulier, on peut retrouver la trace dans cette horreur, cette répulsion de l'hybridation que l'on voit bien dans le cauchemar d'Innsmouth, où il y a cette hybridation forcée des habitants de la ville avec des créatures non humaines et assez épouvantables, et qui prend d'ailleurs une forme particulière, puisque les hybrides, quand ils naissent, ont un aspect humain, et petit à petit, au cours de leur vie, plus ils vieillissent et plus ils se rapprochent du profond, hein, de l'être amphibien, mi-amphibien, mi-poisson, avec ses caractéristiques assez horribles. Et puis, une fois parvenus suffisamment vieux, sont complètement des profonds, et ils vont vivre sous la mer, dans la grande cité engloutie, avec leurs congénères. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a également un aspect intéressant quand même dans cette nouvelle, qui est qu'à la toute fin, alors ceux qui n'ont pas lu l'histoire, bouchez-vous les oreilles, hein. À la toute fin, le narrateur apprend qu'il fait lui-même partie de cette race d'hybride. Et il y a un aspect donc parallèle chez Lovecraft qu'on trouve dans un certain nombre d'histoires et que je qualifierais de « le monstre, c'est moi ». C'est-à-dire le moment où on se rend compte que le monstre est soit un humain dégénéré, soit le narrateur lui-même. Alors, on peut faire remonter ça à une des premières histoires qu'il a écrites qui s'appelle « La bête dans la caverne », qui est une histoire quasiment démarquée d'Edgar Poe, dans laquelle un visiteur dans un réseau de cavernes souterraines perd son groupe de visiteurs et son guide, sent une présence non loin de lui. Je ne sais plus exactement s'il est attaqué par cette présence, mais en tout cas, il a une peur panique qui se développe, et il se met à jeter des pierres, et il se rend compte au bout d'un moment qu'il a réussi à atteindre la créature qui constituait cette présence, et à l'assommer. Et quand le guide revient avec sa lanterne, il se rend compte que cette espèce de gorille blanchâtre et répugnant qui est étalé par terre était en fait un être humain. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on retrouve en partie plus tard dans La peur qui rôde, quand cette race à nouveau d'espèces de gorilles cannibales albinos s'avère être une famille humaine qui a dégénéré en allant s'enterrer par... voilà, c'est le côté un peu rigolo, c'est parce qu'ils avaient peur des orages, et donc ils sont allés s'enterrer pour ne plus entendre le bruit des orages qui était extrêmement fréquent dans la région. Et... voilà, à la fois, on peut avoir parfois ce côté, le monstre, finalement, c'était un humain. Et puis, il y a cette fameuse citation qui nous paraît un peu incongrue en français, à propos des créatures des montagnes hallucinées, c'était des hommes. Alors bon, nous, on se dit, non, c'était pas des hommes, c'est des bestioles en forme de tonneaux, etc. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'ils sont aussi dignes de considération et d'admiration que l'humanité par la force de leur civilisation et le raffinement de la culture qu'ils ont réussi à construire.
Le jeu entre ces créatures justement qui s'élèvent et l'homme qui les génère.
Oui, on peut dire ça, oui. Alors, sauf que ce n'est pas présent dans la même histoire, mais ça pourrait. Il y a une allusion, je ne sais plus à quel endroit, où un narrateur, je ne sais pas si ce n'est pas dans Nyarlathotep, un narrateur prévoit l'ascension de formes de vie extraordinaires, tandis que l'humanité va dégénérer, s'enfoncer dans les guerres et finalement disparaître. Il y a un peu ça aussi, ouais.
Encore un petit poème.
Ah oui, les civilisations perdues. La civilisation perdue, alors voilà, le spécialiste de ça, Laurie Guillot, pourrait nous parler du roman de Monde perdu, dans lequel il y a souvent une créature au bout de l'histoire, une créature qui n'est pas forcément vraiment un monstre, qui peut être juste un gros crocodile, enfin qui est adoré comme un dieu, mais là Lovecraft donne une signification un petit peu plus ample à cette approche-là. On peut dire l'intermédiaire étant peut-être Abraham Merritt, où là c'est plus un gros crocodile qui est adoré comme chez Rider Haggard, mais c'est une espèce de poulpe cosmique enfermée dans une caverne prismatique.
On va faire un petit poème. Allez, un petit poème.
Alors, tiré des fongis de Yougot, le poème s'appelle Antarctos. Au plus profond de mon rêve, le grand oiseau chuchotait étrangement, me parlant du cône noir au sein des déserts polaires. Celui-ci se dresse sur la banquise, solitaire et lugubre, battu et défiguré par des éons de tempêtes démentielles. Ici ne court aucune forme de vie terrestre. Seules de pâles aurores et des soleils maladifs brillent sur ce roc creusé de trous, dont les origines primitives sont devinées obscurément par les grands anciens. Si les hommes l'apercevaient, ils se demanderaient seulement quel étrange caprice de la nature ils contemplent. L'oiseau m'a parlé de l'artile plus vaste qui, sous le linceul de glace, épaisse d'une lieue, se cache et médite.
Merci.
Est-ce que je peux lancer un défi à nos amis comédiens? Est-ce qu'ils pourraient nous faire un poème qu'ils n'ont pas prévu?
À la fin.
Pas très bouillant. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on entende les maigres bêtes de la nuit.
Ça peut se trop.
Donc ben là, on peut parler maintenant d'un peu d'écriture avec Laurent.
On peut essayer, oui.
Qui est plus, plus la partie. Parce que Christophe nous a beaucoup parlé du contenu, des différents thèmes, des créatures. Moi, j'avais envie de te demander par quoi commencer pour écrire à la manière dans l'univers de Lovecraft. Comment on fait pour écrire dans l'univers de Lovecraft avec toute cette vaste culture derrière? C'est presque une bible, en fait, quand on veut s'insérer dedans.
En fait, c'est compliqué. C'est soit... déjà, ça commence par... beaucoup de lectures, ça commence par se faire beaucoup de Lovecraft et aussi d'autres auteurs qui ont travaillé, qui ont écrit dans le même univers. Et ensuite, c'est faire un choix. C'est est-ce que je me conforme à la Bible? Est-ce que j'essaye de rester parfaitement, comment dire, pas crédible, mais de correspondre à tout ce qui a été décrit à la virgule près. Moi, personnellement, je trouve ça un peu dommage, voilà, d'essayer toujours de correspondre. Ça a été fait, il l'a fait. Essayer de faire la même chose, bon, bah, je pense que ça a peu d'intérêt. Après, ça peut être polémique, mais c'est un peu ce qu'a fait Derleth en essayant de faire du Lovecraft et sans y arriver, à mon avis. Ça, c'est voilà. Et pour revenir sur les créatures, puisque c'était un peu le thème, d'un point de vue écriture, pour moi, dans les créatures les plus intéressantes, sont pas celles... Alors, il y a des créatures qui se réfèrent pour moi à la science-fiction. C'est-à-dire que les créatures, la grande race de Yeet, ou les tonneaux, voilà, tout ça sont des créatures de science-fiction. Moi, à la limite, je rapprocherais presque ça de certaines créatures, de certaines races qui sont créées par Werner Winge dans
Au fond de l'abîme.
Au fond de l'abîme, les araignées qu'on trouve aux confins de l'univers. Enfin, voilà, on est vraiment dans la science-fiction. Avec le bémol qui est que, certes, Lovecraft avait beaucoup de, faisait beaucoup de recherches, s'inspirait, donc, comme tu disais, de recherches de microbiologie ou une chose, voilà, d'études. Après, c'est des études de l'époque, donc ça peut être aussi, ça date un peu. Et moi, je trouve que la plupart de ces races, elles sont trop décrites. Et elles en arrivent, et quelque part, alors il y a des descriptions anatomiques très précises, mais elles sont pas, moi souvent je les trouve peu crédibles. Je trouve qu'il va trop loin dans les yeux pédonculés avec trois yeux machin, ou je sais plus dans lequel, c'est une créature que tu m'as donnée, où en fait quand on va dans la fourrure, on s'aperçoit qu'au bout de la fourrure, il y a des petits yeux bizarres au bout de chaque poil, parce que c'est pas des poils mais des pédoncules. Ah oui, mais ça sert à quoi? Je veux dire, à quoi ça sert pour un personnage comme au niveau de la créature? Bon, après, c'est voilà, moi, personnellement, voilà, c'est ce genre de créature. Moi, je ne les réutiliserai pas ou je ne ferai pas ce genre de créature dans ce que j'écris. Par contre, je trouve, moi, ce que je trouve le plus fascinant dans Lovecraft, c'est les créatures juste esquissées, c'est les créatures dont le nom même en soi est porteur d'évocation, comme par exemple Shub-Niggurath, qu'on va dire, bon là on passe dans les divinités, parce qu'on n'a pas trop parlé, à part de Cthulhu, on n'a pas trop parlé des divinités, mais la chèvre noire aux mille petits, ou le bouc aux mille chevreaux, suivant les je ne sais pas si c'est une question de traduction, je pense que c'est une question de traduction. Moi j'aimais bien la chèvre noire aux mille petits, je trouvais ça, c'est évocateur. Et à chaque fois que du coup, tu ne sais pas à quelle forme ça a, mais quelque part c'est porteur de terreur, quoi. Je veux dire, c'est toujours dans les forêts, c'est primitif. Voilà, c'est même si on est toujours dans les divinités, mais les Azathoth, les chaos rampants, tout ça, je trouve ça fascinant. Et moi, une de mes préférées, je ne sais pas si c'est une question que tu allais me poser, mais un de mes préférées, j'ai découvert en faisant les recherches en retravaillant un petit peu pour aujourd'hui, qu'en fait, c'était pas de Lovecraft, même s'il l'a réutilisé, c'est les chiens Tyndalos, qui sont en fait de Frank Belknap Long. Mais qui me... Moi, moi, je suis un lecteur de Lovecraft, alors je l'ai fait en jeu de rôle. Moi, j'ai commencé par la lecture.
Et je me souviens être totalement flippé par ces créatures qui étaient dans les angles bizarres, obtus, mais qui devraient être, enfin tout, je n'ai toujours pas compris au niveau géométrique ce que ça pouvait être. Mais ces créatures qui sont là, qui peuvent être partout, qui peuvent surgir de n'importe où, voilà, moi je trouve ça absolument énorme dans l'univers de Lovecraft.
Alors pour le coup, toi, pour Kadat, tu as pris une créature plutôt pas mal.
Laquelle ?
Eh ben, l'arabe fou.
Ah oui, mais c'est pas une créature, ça. Enfin, c'est pas une créature, c'est un personnage. Hein.
Et le Necronomicon n'est pas non plus une créature.
Ah, bah après, ça peut se discuter. Est-ce qu'il est vivant, le Necronomicon ? Est-ce qu'il a une, il est doté d'une conscience ou de quelque chose, hein, au fond ? Non, moi, ce qui m'intéressait dans Abdul Al-Azred, bah, d'abord, c'était une proposition qui a été faite par Frédéric, donc directeur des éditions de Nemos. Il nous a proposé des personnages. Alors, quand il m'a proposé Abdul, forcément, je pouvais pas dire non. Et moi, le challenge, c'était de faire d'Abdul, en fait, quelqu'un de vivant. Voilà, parce que pour moi, dans Abdul, bah, tout le monde le connaît. Tu peux pas rentrer dans l'univers de Lovecraft sans connaître Abdul Al-Azred. Mais si tu cherches vraiment, tu t'aperçois qu'en fait, c'est la description, tout ce que tu sais sur Abdul, ça tient en 10 lignes, quoi. Et c'est tout. Il n'existe pas. Et donc, moi, le challenge, en toute humilité, c'était de lui donner une épaisseur, une existence. Oui, une existence.
C'est en ça que je parlais de créature.
D'accord. Okay.
C'est donc ta créature.
Oui, enfin, non, ça reste un hommage, mais c'est vrai que j'espère que... Enfin, voilà, que Lovecraft aurait pas... Qu'il y avait quand même aussi des rapports... Si on revient au niveau des créatures, ils se prêtaient leurs créatures, quoi. Donc, tous les auteurs qui gravitaient autour de lui, ben, on se refile, tiens, celle-là, elle m'éclate, tiens, je peux la réutiliser. Je ne sais même pas s'ils se demandaient si on pouvait la réutiliser ou s'ils se faisaient des hommages entre eux. Mais ça, c'était excellent. Donc, bon, on n'est pas dans la même époque, mais ben, il m'a prêté Abdul, j'en fais quelque chose et je lui rends s'il veut, hein, y a pas de souci. Exactement, oui. Et moi, je l'ai propulsé dans les terres des rêves, dans les contrées du rêve, ce qui me semblait être assez raccord avec le personnage et avec l'univers de Lovecraft, quoi.
L'univers de Lovecraft.
Aussi, oui.
Je crois quand même qu'il faut bien insister sur le fait que Lovecraft a des écritures différentes suivant qu'il est dans ses propres créations ou dans les créations déjà existantes, et suivant que lui-même considère écrire, j'oserais dire, de la parascience-fiction avec ses grands anciens, avec ses pseudo,
ses races extraterrestres, oui.
Ou monde perdu, ou qu'il se place dans l'optique du fantastique, de la terreur, il n'est pas, c'est pas le même Lovecraft. Il y a plusieurs Lovecraft.
Complètement, mais ça correspond aussi à ce que je disais tout à l'heure en disant qu'il y avait vraiment une optique science-fiction et une optique fantastique.
Alors,
et
une optique fantasy.
Et une optique. Alors là, bon, alors, oui, alors là, oui, volontiers. Là, on peut y aller. Là.
Oui, parce que nous l'avons vu.
Bah, on a mentionné plusieurs fois les contrées du rêve.
Les contrées du rêve, c'est de la pure fantaisie.
Pour moi, les contrées du rêve, c'est essentiellement une nouvelle. C'est la quête onirique de Kadat l'inconnu. Hein. Le reste, c'est autre chose. Mais en tout cas, là-dedans, il y a une faune, il y a un bestiaire incroyable qui n'apparaît que là. Hein, il est question des zougs, des gougs. Alors, il y a une race de bestioles qui a été traduite diversement selon les traductions, qui s'appelle Ghast en version originale, et qui a eu droit à plusieurs noms en français, donc on va rester sur Ghast parce que c'est celui de la dernière version. Alors, les dôles ou les bôles, hein, selon la
aussi,
version.
Ouais.
Voilà, en fait, ce serait un B, d'après Joshi, qui est la seule personne au monde à pouvoir interpréter l'écriture de Lovecraft. Et voilà, toutes sortes. Bon, il y a guère que les chats, finalement, qui apparaissent dans cette histoire, qu'on peut retrouver dans des histoires différentes, mais autrement, c'est toute une série de créatures, qu'elles soient, disons, relativement amusantes, ou qu'elles soient horrifiques, comme les crapauds blanchâtres de la Lune avec leur face de tentacule, qui n'apparaissent que dans cette histoire. Et là, on est beaucoup plus dans une optique, effectivement, que je qualifierais de fantasy, alors avec en plus l'aspect onirique qui est présent.
Le premier exemple, oui.
Mais on est même
le premier exemple que je ne peux pas récuser idées d'auteur ayant franchi la frontière que je mets entre fantastique et fantaisie.
Voilà, alors avec en plus évidemment une frontière un petit peu ténue, parce qu'il réutilise quand même ces créatures de ghouls à gueule de chien qu'il y avait dans le modèle de Pickman, qui était une pure nouvelle d'horreur. Et puis il fait réapparaître le personnage de Nyarlathotep, qui était alors qui a eu des statuts divers entre la nouvelle Nyarlathotep et puis les autres histoires où il apparaît. C'est vraiment quelque chose d'assez fluide. Mais globalement, on peut quand même parler de fantasy et de... D'ailleurs, ce qui illustre bien le fait, c'est que beaucoup de gens se sont amusés à tracer la carte des pérégrinations de Randolph Carter dans la Terre des Rêves. Donc ça, c'est une chose en général qu'on fait plutôt en fantasy. Et ce côté exploration comme
ou
ça
pas,
d'un territoire... Oui, alors on peut le faire diversement, ouais, et de façon...
Et on peut remarquer d'ailleurs qu'à partir du monde de... Dans la description de Lovecraft, il y a diverses cartes qui ont été proposées et que c'est tellement vague aussi, à l'est, à l'ouest, c'est où sont les choses, et que ça soit la carte qu'on trouve bien évidemment dans les
faut bien que chacun puisse rêver à sa manière.
Et il y a un bouquin de... D'ailleurs, tu l'as pas, ce bouquin, tu sais bien que tu l'as. Une bande dessinée qui a été faite américaine j'ai mangé son nom...
Jason Thompson.
Et toi?
Jason Thompson.
Non.
Alan Moore.
Mockman, voilà. Mockman. Tu vois Mockman ?
C'est ça.
Voilà, c'est le même
c'est
nom.
Jason Thompson.
Ouais. Ah ben, je ne sais pas. Tu l'as ? Ouais. D'accord. Tu veux pas la voir aussi ? Moi, j'aime bien la voir. Et lui-même a fait une carte qui est absolument magnifique d'ailleurs, qui est somptueuse, dans laquelle en plus il a ramené tout ce qui vient d'autres auteurs en plus, d'autres cités, puisque tous les autres auteurs qui ont travaillé qui ont fait des nouvelles dans la Terre des Rêves, il a tout ramené dedans et c'est magnifique. Et pour revenir sur l'aspect écriture, pour moi justement en tant que lecteur tout simplement, mais les créatures les plus fascinantes là-dedans, ça va être justement par exemple les dôles qui sont qui sont énormes et suggérées juste simplement par le bruissement de leur déplacement dans les ossements, dans les cavernes de Zin, c'est ça. Et cette description, le bruissement des ossements, enfin voilà, c'est énorme, je trouve ça génial, quoi. Alors que des descriptions, puis après il y a de la poésie pure, comme les gnories barbus qui sont dans leur caverne sous-marine, on pourrait s'étendre pendant des heures, donc c'est peut-être pas le sujet.
Bah si, la poésie.
Oui, voilà. La poésie. On y retourne. Enfin, les maigres. On va juste. Oui. Les maigres bêtes de la nuit. Fascinant aussi, je veux dire. Et alors, je dirais pratiquement un contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont décrites, mais en même temps, elles restent juste ce qu'il faut. Elles restent crédibles. Elles restent voilà. Allez, la preuve.
De quelle crypte elles sortent en rampant, je ne saurais le dire. Mais chaque nuit, je vois ces créatures noires, cornues et décharnées, aux ailes membraneuses, et aux queues portant la barbe bifide de l'enfer. Elles arrivent par légion, portées par la houle du vent du nord. Avec d'obscènes griffes, elles titillent et irritent. Elles me saisissent et m'emportent vers le monstrueux voyage, en des mondes grisâtres, au cœur du puits des cauchemars. Au-dessus des pics déchiquetés de toc, elles passent, ignorant les cris que je pousse en vain, et descendent dans les puits inférieurs jusqu'à ce lac obscène où les chogottes boursouflées se vautrent dans un sommeil douteux. Mais quoi, si seulement elles émettaient un son ou avaient un visage là où se trouvent les visages.
Et maintenant ?
Alors on peut dire, oui, un petit détail sur cette histoire. Alors Les maigres bêtes de la nuit, on les retrouve effectivement dans la catonérie de Kadath. Et il y a un aspect directement biographique. C'est-à-dire Lovecraft raconte que ce sont des créatures qui l'ont obsédé dans ses rêves. Et il leur donne une double source. D'une part, des maux d'estomac qu'il a eus. Parce que quand il dit « elles me saisissent », en fait, elles le saisissent par la peau du ventre. Et donc, il pense à des douleurs d'estomac. Et puis, c'est particulièrement des rêves qui lui sont venus au moment, quand il était gamin, au moment de la mort de sa grand-mère. Donc il y a eu un choc, un deuil, et d'une personne qui, évidemment, avait toujours été là. Et du coup, des cauchemars qui sont apparus petit à petit. Et puis, bon, bah, ces cauchemars ont pris, on ne peut pas dire qu'ils ont pris un visage, hein, puisque les bestioles n'ont pas de visage, mais ont pris une forme un peu plus précise. Et il les a introduites comme ça dans sa fiction. Il leur a consacré un poème indépendant.
Juste avant d'entamer l'autre gros récit, je rebondis un petit peu. Parce qu'en fait, ces maigres bêtes de la nuit, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elles sont ambivalentes. Parce qu'à la fois, elles sont cauchemardesques, elles sont effrayantes, elles piquent, etc. Sauf que, sans trop spoiler l'histoire, elles viennent aussi en aide, oui, à Randolph Carter. Elles sont là aussi aux ordres de Nodens, cette espèce de divinité un peu équivalent de Neptune, mais qui est plutôt positive, qui vient souvent en aide du héros. Et puis tout d'un coup, Randolph Carter se retrouve même à la tête d'une armée de maigres bêtes de la nuit. Donc, voilà, elles sont aussi à double face.
Mais il n'y a pas de bien et de mal chez Lovecraft.
Donc, le récit suivant est La musique d'Eric Zahn. J'ai examiné des plans de la ville avec le plus grand soin, et pourtant jamais je n'ai pu retrouver la rue d'Oseille. Mes recherches ne se sont pas limitées au plan actuel, car je sais que les noms changent. Au contraire, j'ai plus que longuement interrogé tous les témoignages anciens sur la ville, et j'ai personnellement exploré tous les quartiers, quelques vues de leurs noms qui pouvaient receler une rue d'Oseille. Mais malgré tous mes efforts, il me faut humblement avouer que je n'ai pu, que je ne peux retrouver ni la maison, ni la rue, ni le quartier de cette ville, où pendant les derniers mois de ma précaire existence d'étudiant à l'université, j'entendis la musique d'Eric Zahn. Que ma mémoire soit défaillante, je ne m'en étonne pas, car mon équilibre physique et mental subit de rudes coups pendant toute l'époque de mon séjour rue d'Oseille. Et je sais fort bien que je n'ai fait venir en cet endroit aucune des rares personnes que je connais. Mais le fait que je ne puisse pas retrouver cet endroit est à la fois curieux et inquiétant, car il se trouvait à moins d'une demi-heure de marche de l'université et se distinguait par des traits si particuliers que toute personne l'ayant vu une fois était incapable de l'oublier. Je n'ai jamais rencontré une seule personne qui connut la rue d'Oseille. La rue d'Oseille se trouvait de l'autre côté d'un fleuve sombre, bordé d'immenses entrepôts de briques aux fenêtres opaques, et franchi par un lourd pont de pierre noirâtre. L'air était toujours gris et presque obscur près de ce fleuve, comme si la fumée des usines proches y empêchait en permanence le soleil de percer. Ce fleuve émettait aussi une odeur chargée de relents douteux que je n'ai jamais senti d'autre part, et qui pourront peut-être un jour me permettre de le retrouver, car j'y reconnaîtrai immédiatement. Au-delà du pont, des trois truelles pavées longeaient les rives. Et on montait ensuite, doucement d'abord, puis très vite. On était arrivé à la rue d'Oseille. Je n'ai jamais vu de rue aussi étroite et aussi raide que la rue d'Oseille. C'était presque une escalade. Elle était fermée à tout véhicule, coupée d'escalier par endroits et bouchée à son sommet par un mur élevé et couvert de bière. Son revêtement changeait en cours de route. Par endroits de vastes dalles, en d'autres des pavés, en d'autres encore une terre battue à laquelle s'accrochait comme elle pouvait une végétation d'un vert grisâtre. Les maisons qui bordaient la rue étaient hautes, avec des toits pointus, incroyablement vieilles, et toutes penchées de la façon la plus fantasque qui fût, en avant, en arrière ou de côté. Par endroits, deux maisons se faisant face s'inclinaient l'une vers l'autre, formant une sorte de pont au-dessus de la rue, ce qui l'empêchait naturellement d'être bien clair. Les habitants de cette rue me firent une impression profonde. Au début, je pensais que c'est parce qu'ils paraissaient tous silencieux et secrets. Plus tard, je compris que c'était parce qu'ils étaient tous très vieux. Je suis incapable de dire ce qui m'a amené à vivre dans une pareille rue. Je n'étais pas moi-même lorsque j'y emménageais. J'avais vécu jusqu'alors dans des endroits misérables, d'où mon manque d'argent m'avait toujours fait partir. Je finis par tomber sur cette bâtisse chancelante de la rue d'Oseille, tenue par Blandeau, un paralytique. C'était la troisième maison à partir du bout de la rue, et de loin la plus haute de toutes.
Ma chambre se trouvait au 5e étage, la seule qui y fut occupée, car la maison était presque vide. La nuit de mon arrivée, j'entendis, venant des mansardes au-dessus de moi, une étrange musique. Et le lendemain, j'interrogeai le vieux Blandeau. Il me répondit que c'était un Allemand qui jouait de la viole, un homme muet, étrange, qui signait du nom de Erikson, et qui le soir faisait partie d'un pauvre orchestre d'opéra. Et il ajouta que Zahn, ayant la manie de jouer la nuit après son retour du théâtre, avait choisi cette mansarde isolée dont l'unique fenêtre, ménagée dans le toit, était le seul endroit dont on pouvait voir, par-dessus l'énorme mur se dressant au bout de la rue, l'autre versant de la colline, et le panorama qui s'étendait au-delà. Par la suite, j'entendis Zahn chaque nuit. Et bien qu'il m'empêcha de dormir, je me sentis progressivement hanté par la bizarrerie de sa musique. Quoiqu'il y en ait presque tout de cet art, j'étais convaincu qu'aucune de ces harmonies ne pouvait entretenir le moindre rapport avec une musique déjà entendue. Plus j'écoutais, plus j'étais fasciné. Finalement, au bout d'une semaine, je me décidai à faire la connaissance du vieux musicien. Soit qu'il revenait de son travail, je lui adressai la parole dans le couloir. Je lui dis que j'aimerais le connaître et l'écouter jouer. C'était un vieil homme mince, petit, courbé en deux, avec des vêtements râpés, des yeux bleus, une tête caricaturale qui faisait penser à celle d'un satyre et un crâne presque chaud. À mes premiers mots, il parut à la fois furieux et effrayé, mais mon bon vouloir était si évident qu'il finit par se radoucir. Et grognant vaguement, il me fit signe de le suivre dans l'escalier noir, craquant, branlant, qui menait chez lui. Sa chambre, il n'y en avait que deux, sous ce toit pointu, donnait sur l'ouest, dans la direction du haut mur sur laquelle se terminait là. Déjà très grand, son extraordinaire abandon, sa nudité presque totale, la faisait paraître immense. En fait, de mobilier, il n'y avait qu'un lit de fer étroit, un nécessaire de toilette ébréchée, grande bibliothèque, vitres à musique métallique et trois fauteuils libres. Sur le plancher, en désordre, des cahiers de musique. L'univers esthétique d'Erik Zahn hantait de toute évidence les lointains cosmos de l'imagination. Me faisant signe de m'asseoir, le muet ferma la porte, poussa le gros verrou de bois et alluma une bougie en plus de celle qu'il tenait à la main. Puis il sortit sa viole de son étui dévoré par les nids. Et finalement, son instrument en main s'installa dans le moins inconfortable des fauteuils. Sans me proposer le choix, jouant de tête, il me ravit pendant plus d'une heure avec des morceaux que je n'avais jamais entendus, des morceaux qui devaient être de sa propre invention. Les décrire avec exactitude est impossible à une personne ignorant tout de la musique. Mais je remarquai surtout l'absence totale de ces accords bizarres que j'avais entendus de ma chambre des autres nuits. Ces notes ensorcelantes, je m'en souvenais. Je me les étais souvent fredonné, siffloté, pour autant que j'en avais été capable, si bien que lorsque le musicien posa son archet, je lui demandai s'il voulait bien m'en rejouer quelques passages. À ma question, les traits de mon hôte à la tête de satyre perdirent subitement le calme quelque peu indifférent qu'ils avaient revêtu pendant tout le récital, et parurent trahir ce curieux mélange de colère et de frayeur que je l'avais vu lorsque j'avais abordé le vieillard pour la première fois. Pendant un instant, peu respectueux des sautes d'humeur d'un vieillard, je lui insistais, j'essayais même de piquer cet hôte au tempérament instable, en lui sifflant un des airs que j'avais entendu l'année précédente. Mais je ne m'entêtais pas longtemps dans cette voie. Dès que le vieux musicien eut reconnu ce que je sifflais, ses traits se déformèrent brutalement, possédés par un sentiment défiant l'analyse, en même temps qu'il levait sa longue main froide et osseuse pour fermer la bouche. Et le regard craintif qu'il jeta en direction de la fenêtre solitaire, aveuglé par un rideau comme s'il redoutait l'arrivée d'un intrus, me donna une preuve supplémentaire de sa bizarrerie. C'était doublement absurde, puisque la mansarde était bien plus haute que les toits des maisons voisines, par conséquent inaccessible. Le seul endroit, le concierge me l'avait dit, où il était possible d'apercevoir ce qu'il y avait de l'autre côté du mur fermant la rue. Ce regard jeté par le vieillard me remit à l'esprit cette remarque de Blanc. Non sans une certaine manie, je voulus aller contempler le vaste et vertigineux panorama des toits baignés par la lune.
tiré les rideaux anonymes, si le vieillard, dans une rage terrorisée, comme je ne lui en ai encore jamais vu, ne s'était précipité sur moi, poignant mes vêtements pour me faire reculer, il me fit clairement comprendre qu'il entendait me mettre à la corde. Je lui demandais sèchement de me lâcher. Je laissa aussitôt, et sa propre colère parut s'apaiser. Il posa à nouveau la main sur moi, cette fois-ci dans un geste amical, m'obligea à m'asseoir dans un fauteuil, puis avec une sorte d'expression songeuse, il alla s'asseoir à la table encombrée et, armé d'un crayon, se mit à couvrir de pages d'une écriture laborieuse. Le papier qu'il me tendit finalement était un appel à la tolérance, à l'oubli des offenses. Zahn me disait qu'il était âgé, solitaire, sujet à d'étranges terreurs et à des troubles graves. Il était très heureux que je fusse venu l'écouter, espérait que je reviendrais et que je consentirais à oublier ses excentricités. Mais il ne pouvait pas jouer avec une personne étrangère les harmonies qui m'avaient frappé. Il ne pouvait pas supporter que quelqu'un d'autre lui en parle. Il ne pouvait supporter non plus qu'une autre personne touchât aucun objet dans cette chambre. Il ne s'était pas rendu compte, jusqu'au moment où je l'avais abordé dans le couloir, que je pouvais l'entendre jouer de ma chambre. Et il me demandait si je voulais bien prier pour nous de me donner une chambre à un étage inférieur, d'où je ne pourrais pas l'entendre pendant la nuit. Il était disposé, avait-il enfin écrit, à me défrayer des dépenses supplémentaires. Au fur et à mesure que je lisais avec peine cette écriture exécrable, je sentis ma mauvaise humeur à l'égard du vieil homme s'apaiser. Il était atteint de troubles physiques et mentaux, comme moi. Dans le silence qui régnait alors, j'entendis un léger bruit venant de la fenêtre. Le vent nocturne qui, sans doute, faisait battre le volet. Mais pour une raison ou pour une autre, je sursautais presque aussi violemment qu'Arizane. Dès que j'eus terminé son message, je donnai une poignée de main et quittai en même. Le jour suivant, Blango me donna une chambre moins économique au troisième étage. Mais au bout de peu de temps, je me rendis compte que Zahn était loin d'éprouver un désir aussi réel de gloire qu'il avait paru manifester lorsqu'il m'avait supplié de quitter son étage. Non seulement il ne me demanda pas d'aller lui rendre visite, mais lorsque je le fis, il sembla mal à l'aise et joua d'un air distrait. Ceci se passait naturellement la nuit, le jour où il dormait et ne recevait personne. Ma sainte partie pour lui, évidemment, ne s'en trouva pas renforcée. Pourtant, cette mansarde et cette étrange musique semblaient exercer sur moi une fascination curieuse, de plus en plus marquée. J'éprouvais un désir presque insurmontable d'aller regarder par cette fenêtre, par-dessus le mur, le versant invisible de la colline, les toits et les flèches luisantes qui devaient s'y trouver. Réussis néanmoins à surprendre le jeu solitaire et nocturne du vieil homme muet. Au début, je montais sur la pointe des pieds jusqu'à mon ancien cinquième étage. Ensuite, mon audace s'accentuant, je m'avançais jusqu'aux dernières marches de l'escalier grinçant qui menait à la mansarde. Là, dans ce couloir étroit, devant cette porte bloquée, autour de la serrure bouchée, j'entendis plus d'une fois des bruits qui me remplissaient d'une anxiété indéfinissable, crainte d'un mystère vague, d'une trouble énigme. Non pas que ces sons fussent désagréables à l'oreille, ils ne l'étaient pas, mais ils étaient animés de vibrations qui ne rappelaient absolument rien de connu sur Terre. Et à certains moments, assumaient une qualité réellement symphonique que, même par l'imagination, je ne pouvais mettre sur le compte du musicien seul. Tandis que les semaines s'écoulaient, le jeu devenait toujours plus sauvage. Tandis que le musicien faisait preuve d'absence toujours plus nette et d'une pitoyable volonté de passer inaperçu. Puis une nuit, alors que j'écoutais à sa porte, j'entendis la vieille insensée porter ses harmonies jusqu'à un déferlement chaotique. Pandémonium qui aurait pu me faire douter de ma précaire santé mentale. S'il ne m'était parvenu de derrière cette porte condamnée, la preuve atroce que le drame était bien réel. Ce pleur épouvantable inarticulé, ce sanglot que seul muet peut émettre. Et qu'il ne pousse que dans les moments de terreur ou d'angoisse les plus effrayants. Je frappais, mais ne reçus aucune réponse. Je restais attendre dans ce couloir obscur, tremblant de froid et de crainte. Et je perçus enfin les tristes efforts du musicien qui essayait de se relever. Pendant qu'il venait de reprendre conscience après cet évanoui, je recommençais à frapper à la porte tout en lui criant mon nom pour rassurer. J'entendis Anne tituber jusqu'à la fenêtre, fermer les volets et la vitre, puis revenir péniblement à la porte. Et enfin d'une main tremblante. Cette fois, la joie qu'il montrait à me voir était authentique. son visage encore crispé s'éclaira en me reconnaissant. Il agrippa les pans de ma veste comme un enfant les jupes de sa mère. Agité de frissons pathétiques, le vieil homme m'obligea à m'asseoir dans un fauteuil, tandis qu'il se laissait glisser dans un autre. Sa viole et son archer gisaient à terre, abandonnés. Il resta assis un long moment, sans rien faire, hochant bizarrement la tête, comme s'il était en train d'écouter quelque chose, avec autant d'intensité que de crainte. Il parut enfin satisfait de ce qu'il entendit ou n'entendit pas. Et s'installant dans le fauteuil qui faisait face à la table, il m'écrivit quelques lignes sur une feuille de papier qu'il me tendit. Puis il retourna à la table et se remit à écrire d'une main fébrile et pressante. La note qu'il m'avait passée m'implorait, au nom de la pitié humaine et de ma propre curiosité, d'attendre qu'il eût fini d'écrire. Il me ferait un compte-rendu détaillé de toutes les merveilles et de toutes les horreurs qui l'obsédaient. J'attendis. Le crayon du vieil homme courait sur le papier. Environ une heure plus tard, alors que j'attendais toujours, regardant les feuillets couverts d'une écriture fiévreuse s'empiler les uns sur les autres, je vis soudain un sable se contracter comme sous l'effet d'un choc très violent. Il n'y avait pas à en douter, il fixait bien la fenêtre obstruée par les rideaux, l'oreille tendue en transe. Puis j'eus vaguement l'impression d'entendre moi-même un son. Rien d'horrible, mais bien plutôt comme une note merveilleusement sombre, infiniment distincte, comme on aurait pu lancer un musicien d'une des maisons voisines ou d'une retraite située au-delà du grand mur par-dessus lequel je n'avais toujours pas pu regarder. Sur Zane, en tout cas, l'effet fut terrible. Abandonnant son crayon, il se leva brusquement, s'empara de sa viole et commença à rompre le silence nocturne de la musique la plus folle qui ne soit jamais parvenue aux oreilles pendant les nuits passées de l'autre côté de sa porte. Il serait inutile d'essayer de décrire ce que fut le jeu d'Eric Zane pendant ces heures-là, plus effrayant que tout ce que j'avais jamais entendu en cachette. Car maintenant, je pouvais voir l'expression de sa figure. Je me rendis compte cette fois-ci qu'il était animé par la terreur la plus grande. Il essayait de faire du bruit, de chasser quelque chose, de noyer quelque chose. Mais quoi ? Je pouvais l'imaginer, mais ce devait être redoutable. Son jeu était fantastique, délirant, hystérique. Pourtant, il conserva jusqu'à la fin ces qualités de génie suprême que je savais appartenir à cet étrange vieille. Toujours déformé du sauvage, montait la supplication de cette viole désespérée. Le joueur était en nage, inondé d'une transpiration inquiétante. Il se démenait comme un automate, fixant toujours fébrilement la fenêtre fermée. À travers cette musique indicible, je pouvais presque deviner des satyres et des bacchantes de masqués qui dansaient, qui tourbillonnaient au sein d'abîmes insondables, peuplés de nuées et sillonnés d'éclairs. Puis j'ai l'impression d'entendre une note plus haute, plus régulière, qui, elle, ne provenait pas de la viole. Une note moqueuse, calme, volontaire, qui venait de très loin vers l'ouest. À ce moment précis, le volet se mit à battre sous l'effet d'une bourrasque qui venait de se lever dans la nuit, comme pour répondre à la musique folle jouée dans la chambre. La viole des chiens de Zane se surpassa, émettant des sons dont je n'aurais jamais cru capable. Le volet battait toujours plus fort. Il se déverrouilla et se mit à buter alternativement contre la fenêtre et contre le mur. Puis les vitres se fracassèrent sous ces ébranlements répétés et un vent glacé s'engouffra dans la pièce. Les bougies vacillèrent et s'envolèrent de la table les feuilles de papier sur lesquelles Zane avait commencé à me confier son secret. Je me tournai vers lui et m'aperçus qu'il avait perdu connaissance. Ses yeux bleus sortaient de leurs orbites, vitreux, aveugle, et la mélodie hystérique n'était plus qu'une sorte d'orgie folle mécanique dont aucun mot ne saurait donner le moindre aperçu. Une rafale plus violente que les autres souleva le manuscrit et l'emporta vers la fenêtre. Dans un essai désespéré, je voulus me lancer à la poursuite des feuilles tourbillonnantes, mais elles avaient disparu dans la nuit avant que j'eusse pu atteindre la fenêtre béante. Il me revint alors en mémoire ma vieille envie de regarder par cette fenêtre, la plus haute, de la plus haute maison de la rue d'Oseille, dont on pouvait apercevoir le versant de l'autre côté du mur et la ville endormie à ses pieds. Il faisait nuit, mais les lumières de la ville brûlaient encore à cette heure, et je m'attendais à aller voir à travers la pluie et le vent. Pourtant, quand je regardais de cette mansarde aérienne, quand je regardais le dos tourné aux bougies clignotantes, espace sans fond. Un espace inimaginable, vibrant de musique et de mouvement, ne ressemblant à rien de ce qui pouvait exister sur cette terre. Et au moment même où je contemplais ce spectacle, empli d'une sainte terreur, le vent souffla des deux bougies, me laissant seul dans cette mansarde solitaire, au sein d'une obscurité sauvage et impénétrable, avec devant moi ce chaos, ce pandémonium, et derrière moi, le délire démoniaque de la ville hurlant à la nuit. J'entrais vos chers recours dans le noir, n'ayant rien qui me permît de rallumer des bougies, me cogner contre la table, renverser un fauteuil, cherchant à tâtons l'endroit d'où provenait la musique interdite, nous sauver. Et Rizal et moi, je pouvais tenter quelque fût les pouvoirs auxquels j'avais à faire face. À un moment, je voulais sentir quelque chose de froid me frôler. Je hurlais, mais mon cri, je ne l'entendis même pas moi-même par-dessus la violence démence. Tout à coup, toujours dans l'obscurité, l'archer me frôla. Je compris que j'étais tout près du musicien. Avançant les bras, je le rencontrai le dos du fauteuil de Zane, tâtonner, trouver son épaule, la secouer pour le faire revenir à lui. Il ne réagit pas et la viole continua à grincer sans marquer le pause. Je posai ma main sur la tête de Zane, interrompit son branlement mécanique. Je criai dans l'oreille du vieillard qu'il me fallait à tout prix fuir les choses inconnues qu'éveille la nuit. Mais il ne me répondit pas, ne ralentit pas le rythme de sa musique inexprimable. Et pendant ce temps, d'étranges tourbillons d'air semblaient danser dans la nuit langissement. Lorsque ma main rencontra l'oreille de Zane, je frémis sans comprendre pourquoi, jusqu'à ce que j'ai touché, palpé la tête impossible, cette tête glacée, raide, immobile, dans laquelle des yeux vitreux saillaient dans le noir, fixés sur le but. Puis par une sorte de miracle, je trouvais la porte avec son bout de moi, et je m'enfuis comme un fou loin de cette chose aux yeux vitreux immobiles dans le noir, et de la mélodie vampirique de cette viande maudite, dont l'ardeur me parut croître encore au moment où je la quittais. J'ai dévalé 4 à 400 et un voir les interminables escaliers de cette bâtisse obscure, dévalé sans m'en rendre compte cette rue droite, antique, raide, coupée de marches, bordée de maisons changeantes, trébuché sur les pavés inégaux des rues basses jusqu'au fleuve putride dans ses ventres et murs aveugles, j'ai couru enfin jusqu'à l'autre bout du pont, immense, conduit dans la nuit, jusqu'aux avenues, jusqu'aux boulevards larges et rassurants que nous connaissons. Ces souvenirs atroces traînent encore dans ma mémoire. Je me rappelle aussi qu'il n'y avait pas de vent cette nuit-là, que la lune brillait, que toutes les lumières de la ville clignotaient. Malgré toutes mes recherches, malgré toutes mes enquêtes, je n'ai jamais pu depuis retrouver le dossier. Je ne regrette qu'à demi qu'il est. Il s'agit du fait en lui-même de la perte, en impensables habits, des feuillets denses qui, seuls, pourraient expliquer la musique de Rizal.
Merci. Alors maintenant, s'intéresser un peu à cet ouvrage que tu as enfin publié, qui est une somme sur l'auteur de ces textes. Comment est-ce qu'on rassemble un tel ouvrage? Comment est-ce qu'on travaille sur un sujet pareil?
D'abord par inconscience. Parce qu'on ne sait pas tout ce que ça va représenter comme travail. Non, c'est une monographie, donc c'est un ensemble d'articles et de textes autour de Lovecraft, avec des lettres de Lovecraft que nous a traduit Patrice Mounet. L'idée dans ce bouquin-là, alors la première chose, c'est de s'adjoindre à un spécialiste, parce que être éditeur, finalement, c'est être spécialiste de rien. Donc il y a des gens qui savent beaucoup mieux. Donc d'abord, on va voir les gens qui savent beaucoup mieux. Donc, on a été voir et David Camus et Christophe. Et puis l'idée sur ce bouquin-là, c'était de travailler à la fois sur l'homme et à la fois sur l'univers étendu. Parce que ce qui est génial avec Lovecraft, c'est comment tout son univers a été repris dès le départ, hein, et même avant sa mort, et comment il s'est diffusé, le moindre bout de tentacule maintenant, même chez votre poissonnier, vous pensez à Cthulhu. Donc voilà, votre poissonnier quelque part vous fait bouffer du poulpe, grâce à ça.
Il y a de valeur des poissonneries chez Cthulhu.
Ouais, il devrait y avoir des poissonneries là-dessus. Donc, en plus, ce qui est passionnant, c'est le bonhomme qui est derrière. Et c'est surtout tout ce qui était faux et ce qu'on a longtemps cru vrai, globalement. Ce qui nous a tout de suite intéressé, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait, tout en racontant l'homme, l'éclairer par un éclairage nouveau, au vu des 10, 15, 20 dernières années qui viennent de se passer. Voilà, à partir du moment où tu sais que tu veux explorer l'homme et que tu veux explorer un petit peu l'univers étendu, bah c'est un puzzle.
On a une biographie, on a à la fois des nouvelles indispensables, mais on a aussi des articles sur les influences de Lovecraft. Et puis à un moment, on ne peut pas ne pas parler, par exemple, de la correspondance lovecraftienne. Donc on a cherché à traduire des lettres sur Lovecraft, de Lovecraft, via Patrice Rounet. Et puis on a été interviewé des gens. Donc on a été interviewé des gens qui font le jeu vidéo L'Appel de Toulouse en ce moment. Il y en a un nouveau. Donc voilà, notamment il y a un mec, ça fait pendant 3 ans, il conçoit la musique de l'Appel de Cthulhu, musique faite à partir de bruissements, de craquements et de grincements. Voilà. Oui, non, mais un mec sympa, hein, ouvert, tout ça, sauf qu'il a une musique horrible dans les oreilles toute la journée, pendant 35 heures. Voilà, et qui rentre chez lui le soir, tranquille, il a le sourire. Hein,
hein, ça fait qu'un par jour.
Oui, c'est impressionnant.
En plus, c'est du bruit de Bah, il habite pas rue d'Oseille.
Non, il habite pas rue d'Oseille. Par contre, c'est rigolo parce que c'est un. Imaginez un espace, un open space de, je sais pas, 300 mètres carrés ou 400 mètres carrés, et ça travaille par pôle de jeux vidéo, plus ou moins dans la pénombre, évidemment. Et donc, les mecs qui font l'appel de Cthulhu, donc ils sont en permanence en train de plonger dans l'univers, ils sont à côté des mecs qui travaillent sur le Tour de France en jeux vidéo. Voilà, donc Scotto de Toulouse et le maillot jaune. Voilà, tout est normal. Donc non, ça c'était rigolo de pouvoir dire, si on veut parler de l'illustration, puisque les images sont évidemment importantes dans Lovecraft, d'aller voir trois illustrateurs. Donc il y a à la fois des fans comme François Baranger et puis Nicolas Fructus. Mais il y a à la fois un Philippe Casa qui dit bah, moi, Cthulhu, ça me fait plutôt marrer, en fait. Plutôt rigolo avec ses petites ailes, là. Et Lovecraft, finalement, j'ai illustré Lovecraft par devers moi. Donc c'est un peu les histoires dans les histoires. Donc, on l'a composé comme ça, à la fois de briques et de broc, et avec vraiment cette volonté de tout aborder. Même si on en parlait ce matin avec Christophe, je pense qu'on aurait pu en faire un deuxième, voire quasiment un troisième, si on avait eu envie de gratter encore plus, quoi. J'ai répondu.
Oui, c'est parfait. Pas. Est-ce qu'il y a des questions?
Non.
Eh bien, on peut s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu.
Que tout doux soit avec vous.
Merci.